mode d'emploi.
Bonjour, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes d'Attaque et du journal Le Piaf.
Et nous recevons aujourd'hui deux invités avec deux projets parisiens, mais qui concernent évidemment chacun d'entre nous. Le projet porté par le Triangle de Gonesse, l'association pour le Triangle de Gonesse, qui essaye de combattre depuis plusieurs années l'installation d'un grand centre commercial appelé Europea City. Et puis un projet que vous avez peut-être entendu parler, qui serait, je crois, les Jeux Olympiques à Paris en bientôt. Enfin, j'ai pas vu se passer ça dans les médias. Mais Frédéric Vial est là pour nous en parler et je crois qu'il va en dire pas mal de mal. Mais pour commencer l'émission, on va commencer par un peu plus d'actualité et je crois que plein de gens ont envie de dire du mal de Macron. Je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est Gaël qui commence.
Eh oui. Savez-vous qui est au ministère des Solidarités et de la Santé?
Non, je sais pas, non.
Alors, il y a bien sûr la ministre Agnès Buzyn,
J'allais le dire.
En hématologie, ex-présidente de la Haute Autorité de Santé. Bref, quelqu'un a priori légitime pour ce poste. Mais elle est flanquée d'un directeur de cabinet, Gilles de Margerie, qui lui a un profil assez différent. Il était précédemment directeur général adjoint du groupe Humanis, qui est un groupe paritaire et mutualiste de protection sociale. C'est-à-dire une entreprise qui propose des offres de protection sociale aux entreprises et aux particuliers, dans les domaines de la retraite complémentaire, de la santé, de la prévoyance, de la dépendance, de l'épargne et de l'action sociale. Bref, c'est un haut dirigeant des assurances privées qui devient en quelque sorte le numéro 2 du ministère de la Santé. Or, ces dernières années, les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de droite, c'est-à-dire de la droite décomplexée ou de la droite complexée, ont réduit la part de la Sécu dans le système de santé avec une belle constance dans l'effort au bénéfice des assurances complémentaires. Et quelque chose me dit qu'on va poursuivre sur cette voie. Alors, on a beaucoup parlé des conflits d'intérêts de Richard Ferrand, mais finalement, ce qu'on reproche à ce pauvre Ferrand, c'est exactement ce que Macron assume de manière systématique dans son gouvernement, c'est-à-dire des gens des milieux patronaux qui viennent directement se servir sans passer par les intermédiaires d'autrefois. On trouve des profils similaires au ministère du Travail, puisque la ministre elle-même est une ancienne DRH de chez Danone, et son directeur de cabinet, Antoine Fouché, est un ancien directeur et l'ancien directeur des relations sociales du MEDEF. Alors, pour faire une bonne figure, le directeur de cabinet adjoint Stéphane Lardy est un ancien de FO, mais je ne sais pas s'il y a un ex-apparatchik FO tendance molle qui a été nommé inspecteur général des affaires sanitaires et sociales l'an dernier par Hollande fait vraiment contrepoids face à un ex-MEDEF. À l'éducation nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer est l'ancien directeur de l'ESSEC, une grande école privée de commerce. Et puis le Premier ministre lui-même donne l'exemple, puisque son directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas, vient de l'industrie pétrolière et gazière. Vous vous souvenez du temps de l'ancienne politique? Les cabinets ministériels étaient remplis de politiciens et de jeunes énarques qui ne connaissaient que la haute administration. Alors, beaucoup de ces gens étaient déjà un petit peu au service du MEDEF, puisqu'ils avaient fréquenté les mêmes écoles et appartenaient souvent à la même classe sociale. Et entre copains de promo, on s'aidait. Aujourd'hui, c'est directement le MEDEF qui est au gouvernement. Sauf que les médias comme il faut n'appellent pas ça MEDEF, mais société civile. Et la société civile, elle est forcément parée de toutes les vertus.
Les vertus, c'est un bon enchaînement, parce que là, on va voir une fable. Alors, c'est pas une fable de Monsieur de La Fontaine, mais pas loin, n'est-ce pas?
Oui, c'est à propos d'événements qui commencent déjà à dater, parce que le temps passe vite, mais enfin, c'est pas si vieux que ça, tout de même. C'est les animaux malades de la peste et du choléra. Il était une fois un pays où l'heure s'annonçait grave. Deux candidats, dont une candidate, s'affrontaient pour exercer le pouvoir. L'une était une hyène, l'autre un renard. Le peuple des animaux se divisa. Les hyènes voteraient pour la hyène, les renards pour le renard, tandis que les autres s'entre-déchiraient pour savoir s'il valait mieux, afin de vaincre la hyène, soutenir l'hypocrisie du renard. Mais ainsi, entacher à jamais leur honneur, ou s'abstenir afin de garder propres leurs pattes. Les partisans du ni-ni, pot de chien, loup en tête, hurlèrent tant et si fort, arguant qu'il serait bien temps par la suite de renverser la hyène, si le destin voulait, par malheur, qu'elle l'emporte, grâce à leur abstention, mais ils taisaient ce paradoxe. Ils jasèrent tant et si bien, donc, qu'ils parvinrent à convaincre bon nombre de les suivre, puisque, selon les sondages, la hyène n'avait aucune chance de gagner l'élection. Le jour venu, les votants furent traités de porcs par les abstentionnistes, qui à leur tour les traitaient d'ânes, car les insultes fusaient par la campagne, tant l'atmosphère était gonflée d'électricité orageuse. « Le verbe qui se déchaîne évite au coup de pleuvoir », dit un vieil éléphant en gourou fort lucide. Bon nombre de moutons, cependant, impressionnés par les sarcasmes, préférèrent rester au bercail. Les oies et les dindons estimèrent avoir mieux à faire ce jour-là. Les poules craignaient que la pluie ne fonde sur elles. Vaches et bœufs renâclaient à parcourir la longue route qui menait jusqu'à l'urne. Certains renards, même, choisirent d'aller traquer la truite, car la pêche venait de s'ouvrir. Tant et si bien que lorsqu'on dépouilla le soir, pas encore les votants, mais les votes, ce fut la hyène qui l'emporta. Je ne vous dis pas lesquelles de toutes ces bestioles donnèrent alors le plus de la voix.
Bravo. On applaudit.
Après, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord.
J'espère bien.
Eh bien, vu que vous avez de la voix, monsieur Alex, c'est à vous.
Oui, alors moi, je veux parler du renard, hein, de la fable, en l'occurrence du bon docteur Macron, qui nous propose ce qu'on pourrait appeler une régression sur ordonnance. Donc, depuis un moment, il a en tête une réforme du Code du travail, dont il a parlé pendant la campagne électorale. Et puis là, on a soudainement et assez brutalement, en quelques jours, eu trois versions de l'impossible contenu des ordonnances. Ça c'est intéressant parce qu'il y a la version du Parisien, la version de Libération et la version officielle. Et moi j'ai regardé surtout en fait la version de Libération qui est assez intéressante. Et il y a trois points fondamentaux dans le. Alors c'est pas le contenu de l'ordonnance, c'est une feuille de travail qui aurait circulé entre les ministères pour essayer de fixer un contenu à ces différentes réformes. Et on voit trois points qui reviennent. Donc, premier point, fixation d'un barème des indemnités de licenciement, donc quelque chose qui figurait déjà dans la loi El Khomri, et avec toujours le même objectif de sécuriser les licenciements abusifs. Autrement dit, un chef d'entreprise pourrait virer sans respecter la loi et savoir à l'avance combien ça lui coûterait. Deuxième point, c'est ce qui était déjà dans la loi El Khomri et sur lequel le gouvernement avait un petit peu reculé face à la mobilisation, c'est une extension de l'inversion de la hiérarchie des normes. Autrement dit, l'idée que l'accord d'entreprise doit primer sur dans à peu près tous les domaines, sur l'accord de branche et donc sur les conventions collectives. Et enfin, un troisième point, ça serait l'extension du rôle du référendum d'entreprise et la possibilité, surtout, en fait, ça c'est le point le plus important, pour le chef d'entreprise d'être à l'initiative du référendum. Et donc, si effectivement on met ces trois points ensemble, ça veut dire qu'on change les rapports au sein de l'entreprise nettement à l'avantage des patrons. Et alors, qu'est-ce qui justifie d'un point de vue économique tout ça? Quelle est la maladie qu'on essaye de guérir en fait à travers ces différentes réformes? C'est ce qu'on pourrait appeler la chômagite aiguë, c'est-à-dire l'idée qui est très répandue dans les milieux libéraux que la France souffrirait d'un chômage particulièrement élevé lié à un problème de flexibilité du marché du travail. Alors un petit détour théorique. L'idée, c'est simple, c'est dans une représentation néoclassique du marché du travail, donc pour certains économistes, ceux sur lesquels s'appuient les libéraux, il ne doit pas y avoir, à partir du moment où le marché du travail est parfaitement fluide et flexible, et que l'offre de travail correspond à la demande de travail, il ne doit pas y avoir de chômage. Il n'y aura de chômage que volontaire. Alors ça a besoin quand même d'une petite traduction. Qu'est-ce que c'est que le chômage volontaire? C'est le fait de se retrouver au chômage parce qu'on refuse les conditions et le salaire que propose le marché. Le marché fixe un salaire et l'offreur de travail, le travailleur qui essaye de trouver à s'employer, doit accepter ce salaire. S'il ne l'accepte pas, c'est un chômeur volontaire. Et ça, c'est donc une idée qui n'est pas du tout nouvelle, qui est qu'on retrouve dans toutes les recommandations de l'Union européenne, de l'OCDE depuis à peu près 20 ans, et qu'on a essayé de vérifier théoriquement. Et là, c'est très intéressant, parce que quand on essaye de vérifier théoriquement, on avait déjà évoqué ça dans une précédente émission, on fait notamment un repère avec un nuage de points, et une espèce de ligne qui est donc là une droite de régression linéaire au milieu de ce nuage de points, pour essayer de voir s'il y a une corrélation entre le taux de chômage et le degré de flexibilité du marché du travail. C'est les différentes règles qui entourent le contrat de travail, en supposant qu'en fait, moins il y a de règles qui entourent le contrat de travail, moins il y a de protection de l'emploi, plus il va y avoir un taux de chômage bas. Bah, quand on essaye de vérifier, on se rend compte que ça marche très mal. Ça se vérifie très peu. Et ce qui n'est pas du tout illogique, parce qu'en fait, le taux de chômage, il dépend de plein d'autres choses. Il dépend du niveau de la croissance, il dépend du niveau de la productivité, il dépend de facteurs démographiques. Si, par exemple, on compare la France et l'Allemagne, on peut expliquer une bonne partie de la différence du taux de chômage entre la France et l'Allemagne par le fait que la France a une démographie qui est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année qu'en Allemagne. Et donc, il faut créer plus d'emplois en France pour arriver au même niveau, même niveau de chômage qu'en Allemagne. Et... Donc, on se rend compte aussi, évidemment, et même ça, l'OCDE le reconnaît, même la plupart, en fait, des experts, honnêtement, quand ils essayent d'approfondir cette question de la flexibilité du marché du travail, se rendent compte que la théorie se vérifie assez mal, qu'il y a énormément d'autres facteurs qui comptent, et qu'en particulier, la question de la croissance est beaucoup plus fondamentale. Mais en même temps, il y a cet attachement à cette question-là, et là, Macron se retrouve avec une possibilité extraordinaire de pouvoir imposer dans des conditions parfaites ce coup-là, c'est-à-dire une réforme profonde du Code du travail qui irait dans le sens d'une plus grande flexibilité, beaucoup plus grande que toutes celles qu'on a connues jusqu'ici, qui achèverait en fait 30 ans de flexibilisation du marché du travail en France. Et en plus, c'est des conditions idéales pour lui parce que politiquement, il a la possibilité, il va vraisemblablement avoir une majorité, et il aura la possibilité d'imposer sur ordonnance, en apparaissant comme quelqu'un de novateur, de moderne, quelque chose qui est dans l'air depuis, dans les rapports depuis 30 ans et dans l'air depuis une dizaine d'années, et tout en apparaissant comme quelqu'un qui innove, alors qu'en réalité, il ne fait que confirmer, continuer tout ce qui a été proposé par les libéraux depuis 30 ans. Et le pire en plus là-dedans, c'est que la conjoncture économique actuelle est telle que ça pourrait donner l'impression de marché. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est un renversement de tendance. C'est la fameuse inversion de la courbe qu'attendait Hollande vainement. Autrement dit, tendanciellement, le taux de chômage devrait baisser, vraisemblablement, dans les prochaines années en France. Et évidemment, ça sera très intéressant pour Macron d'expliquer que c'est grâce à ces réformes. Et donc, c'est vraiment le moment de se mobiliser. Tout de suite, là, ce week-end, et cet été, et à la rentrée, pour montrer qu'on ne va pas laisser défaire le contrat de travail, qu'on ne va pas laisser défaire le code du travail, parce que c'est quelque chose qui est important, et pas seulement pour des raisons économiques, et que ce n'est pas ça qui explique le niveau du taux de chômage dans un pays. Voilà.
Merci, professeur Alex. Mais on arrête de penser tout de suite. On vient d'avoir un sondage sur le téléscripteur, plus exactement un sondage, SONDAPOSTROPHE, AGE, un son d'âge.
Monsieur, s'il vous plaît, que pensez-vous de notre président ?
Eh bien, il a 39 ans.
Oui, mais politiquement.
Il est bien plus jeune que sa femme.
Oui, mais...
Mais même que d'abord, il a été son amant, je crois.
Oui, mais par ailleurs...
Et ils se tiennent par la main, comme de jeunes amoureux. C'est beau, c'est beau. Moi, je vais vous dire, ça me donne de l'espoir.
Oui, mais encore...
Ah, ça m'étonnerait qu'il ait une maîtresse. C'est pas comme les autres.
Hein. Sans doute, oui, mais sinon...
Cela dit, vous avouerez que ça fait tout de même drôle. Hein.
Quoi donc ?
Une telle différence d'âge. On a dû souvent la prendre pour sa mère. Heureusement, elle est discrète. Hein. Ça, vous imaginez un peu si ça avait été une maman italienne. Et Monty Manuel par-ci, Monty Manuel par-là. Non.
Oui, mais sur le plan politique.
Ah. Il a un beau regard, franc, généreux. Et puis, il dit ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il dit. En tout cas, moi, c'est ce que je pense.
Oui, et vous le dites. Mais qu'est-ce que vous pensez de son programme politique ?
Ah, on sent qu'il y croit. Hein. Ça se voit tout de suite. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. Moi, je le sens rien qu'à son regard. Et puis, vous vous rendez compte, il n'a que 39 ans. Enfin, bon, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Il faut lui laisser sa chance.
Et vous aviez voté pour lui ?
Non, non. Je ne savais même pas qu'il avait 39 ans. Enfin, avant qu'il soit élu. Hein. D'ailleurs, si je l'avais su, ça ne m'aurait pas incité à voter pour lui. Un petit jeune comme ça, sans expérience, c'est quand même risqué.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors, pour conclure, comment le voyez-vous dans un an ?
Dans un an, c'est pas difficile à compter. Hein. Il sera en quarantaine.
Allez, sans transition, une petite pause musicale.
Et c'est Caetano Veloso, Chega de Saudade.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, j'ai marché dessus. Moi, je voudrais bien un beau matin. Il y a une fleur dans mon jardin.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants altermondialistes et d'attaque.
Alors, on reprend avec nos invités. Notre premier invité, c'est donc Blaise, qui intervient pour l'association Pour le Triangle de Gonesse. Donc Gonesse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville du nord de Paris, comme il y en a d'autres. Et celle-ci a la particularité d'être un joli triangle, et entre autres parce qu'il y a, je crois, un petit aéroport d'un côté, à Roissy, etc. Bon, on va rentrer dans les détails, mais ce qui nous motive aujourd'hui, c'est qu'au sein de cet immense triangle de Gonesse, il va y avoir un projet qui s'appelle Europea City. Alors bonjour Blaise.
Bonsoir. Alors, je serais moins affirmatif en n'utilisant pas le futur, mais le conditionnel. Parce qu'il y aurait peut-être, ou il y aura peut-être, ce projet Europa City de centre commercial et de loisirs géant porté par le groupe Auchan et depuis 2016, son allié, le groupe chinois Vanda. Donc au milieu du triangle de Gonesse qui effectivement au nord délimité par l'aéroport de Roissy, au sud le Bourget et pas quasiment au bord de l'Ain, côté est. Donc le triangle de Gonesse est 1000 hectares. Autrefois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, agricole. 300 hectares ont été bétonnés pour faire des entrepôts. Il en reste 700 hectares. Et sur ces 700 hectares, il y en a 300 qui sont prévus pour être une zone d'aménagement concertée, une ZAC, dans laquelle Europa City aurait 80 hectares pour donc faire ce centre commercial géant, 240 000 m2. Et son parc de loisirs, à savoir, pour simplifier, une piste de ski plus longue qu'à Dubaï, un parc d'attractions et un parc aquatique du type de celui qui est vers la porte de Versailles. Et donc le tout reposant économiquement sur, ça a été dit pendant le débat public et redit pendant le débat public qui a eu lieu l'année dernière, sur les magasins du centre commercial.
Donc un projet, comme on dit, pharaonique, quand on n'a pas d'autre adjectif pour désigner ce genre de projet fou. 80 hectares, c'est gigantesque.
Oui.
Et dans le fond, ça plaît aux gens, non, ces centres commerciaux ?
Ça plaît d'abord aux promoteurs qui ont d'abord été voir l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui présenter le projet. Qui lui a proposé quelques endroits, dont celui-là bien situé, à savoir que, comme les centres commerciaux traditionnels avec l'hypermarché, la galerie marchande avec les quelques boutiques et maintenant à peu près tous les gros des multiplexes, ça suffit plus pour assurer la rentabilité à long terme. Donc maintenant, on voit toujours plus grand dans la démesure. Et on ajoute à ce que je viens de dire des activités de loisirs pour assurer un flux de visiteurs plus important. Donc dans le cas d'Europa City, il mise sur 31 millions de visites par an et par là même permettre de louer cher les boutiques du centre commercial. Donc c'est une stratégie avant tout immobilière qui repose sur les flux, sur des flux toujours plus importants, et comme pour faire le lien avec la question, sur le fait de transformer ces endroits-là en lieux de vie qui concurrencent directement les centres-villes, parce que les lieux de vie aujourd'hui, c'est les centres-villes, c'est pas les hypermarchés ou les centres commerciaux, les hypermarchés où on passe pas toute la journée encore.
Enfin, lieu de vie, j'ai pas entendu parler de médiathèque, de bibliothèque, de campagne fleurie, de coin pour s'aérer. Hein. C'est des lieux de vie en béton et des lieux de vie un peu artificiels. Mais c'est des lieux de vie quand même qui ramènent de l'emploi. Moi, j'ai entendu parler de 10 000 employés supplémentaires dans le nord de Paris.
Alors, c'est l'argument massu, comme à chaque fois qu'il y a des projets de centres commerciaux pour les faire accepter par la population... et que les élus puissent en faire la promotion. Effectivement, au départ, c'était même beaucoup plus, parce que à un moment, il était question de 20 000 emplois. Auchan disant, bah oui, 20 000 emplois, c'est, je simplifie, hein, mais 10 000 pendant la construction et 10 000 pendant l'exploitation. Donc en gros, allez, hop, on multiplie par, on fait la somme des deux, alors que ça succède pendant une période de temps. D'abord on construit et après on exploite. Là directement, on avait le droit à la somme des deux. Et pendant le débat public qui a eu lieu l'année dernière, ces promesses mirifiques d'emploi ont été démontées, notamment par une étude faite par la Seine-Saint-Denis qui voit d'un très mauvais œil le projet, parce qu'il y a des gros centres commerciaux qui seraient en danger dans la Seine-Saint-Denis et qui ont conclu, après destruction d'emplois existants, ça nous amènerait plutôt vers les 2000 emplois nets créés. Donc là, il y a des études sérieuses qui démontrent que ces créations d'emplois sont fausses.
D'autant plus que ces hectares pourraient faire de l'emploi agricole, peut-être.
Alors ça prend en plus pas en compte les emplois agricoles. Donc aujourd'hui, les 700 hectares qui restent, c'est essentiellement de la grande culture. Mais cette grande culture-là génère, en plus des emplois directs de fermiers, beaucoup d'emplois indirects parce que il y a à la fois de la récolte et après il y a la transformation des produits. Donc c'est quand même assez créateur d'emplois. Mais après, le problème, c'est essentiellement au niveau de l'emploi. On reviendra après sur l'agriculture. C'est le fait que ce projet-là soit situé dans une zone où il y a déjà un excédent de centres commerciaux. Il y a déjà une bulle immobilière de l'immobilier commercial et ça ne ferait que l'aggraver. Vous avez le cas du centre commercial Le Millénaire qui était emblématique il y a 5-6 ans d'un super projet qui était vanté partout et qui a fait un fiasco, et du centre commercial Aéroville, ouvert en 2013, et qui tient pas du tout ses promesses de fréquentation.
Alors ça, c'est un point, c'est cette critique de l'emploi, alors que c'est mis en avant dans le projet, mais évidemment, ce que l'industriel pense rarement, il faut bien l'avouer, c'est un petit peu d'écologie. Et un des points principaux, c'est quand même le souci du réchauffement climatique qui nous importe, enfin, sauf à Donald Trump, tous.
Alors en plus, là, avec la décision de jeudi dernier annoncée par Trump de se retirer de l'accord, non pas de Paris, parce que l'accord a été signé au Bourget et pas à Paris, de l'accord de la COP21, signé à 4 km, même pas, du triangle de Gonesse. Donc c'est le projet Europa City est typiquement un projet qui mise sur le réchauffement climatique, à savoir dans les premiers documents que on a pu avoir du projet, il était écrit texto que Europa City misait sur un doublement du trafic de l'aéroport de Roissy, à l'époque c'était vers les 60 millions, maintenant on est 65 millions de voyageurs par an, à 120 millions de voyageurs. Que ça va générer encore plus d'émissions de CO2, que ça mise en partie pour les loisirs et le centre commercial sur des voyages courts, en gros des gens qui prennent l'avion pour un week-end, ils font 1000 km, 2000 km, quelque chose comme ça, et au bout de deux jours, ils repartent chez eux après être restés tout un week-end dans Europa City. Donc ça, c'est des flux de transport gigantesques pour quasiment pas de temps passé sur place. Donc ça, c'est en rapport direct avec les émissions de CO2 qui détruisent le climat. Et il y a un aspect incident, c'est que pendant les canicules qui ont eu lieu en 2013, et alors je sais plus, après c'était en deux ans après, je crois que c'était en 2015, il y avait des populations qui, là où elles habitaient, étaient frappées par la chaleur et allaient se rafraîchir dans les centres commerciaux qui sont climatisés. Et donc le centre commercial géant du type Europa City, mais c'était le cas à La Défense ou au Hall et ainsi de suite, bah, mise même sur ce réchauffement climatique, parce que ça, c'est des lieux de refuge où la population peut se réfrigérer, enfin se réfrigérer pas totalement quand même, mais se rafraîchir en période de réchauffement climatique, alors que dans les appartements où ils habitent, ça peut pas être le cas. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc dans des revues professionnelles d'urbanisme commercial, que les centres commerciaux, en période de canicule, sont des refuges pour la population.
D'autant plus que le ministère de la Santé recommandait aux personnes âgées d'aller dans les centres commerciaux climatisés.
Non, mais c'est ça.
Donc avec la bénédiction du gouvernement et des médecins.
Et dans les églises, on peut aussi. Il fait très
mal. Mais là, on n'achète pas grand-chose.
C'est
mieux quand même l'église que le centre commercial.
On peut acheter quelques cierges. Justement, l'expression, c'est on va prendre le bon air au centre commercial, c'est ça. Montons au triangle de Gonesse, prendre le bon air.
Voilà. Parce que le centre commercial, en plus d'être climatisé, bien sûr, dans les nouvelles normes de construction, il doit filtrer les particules. À l'extérieur, la population de Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel, et si je vais en Seine-Saint-Denis, c'est le Tremblay en France, Sevran, et ainsi de suite, en période de pic de pollution, bah, inhale des quantités gigantesques d'ozone, de particules fines PM10 ou PM2,5. Là-bas, vous pourrez respirer un air filtré aux nouvelles normes. Et donc, non seulement vous aurez moins chaud, mais en plus, vous ne mourrez pas d'œdème aux poumons et ainsi de suite. Donc
enfin, c'est à l'intérieur du centre commercial, mais à l'extérieur, par contre.
Ah, à l'extérieur, bah, vous continuerez peu à peu à mourir de plus en plus de problèmes pulmonaires parce que vous serez survolé par de plus en plus d'avions. Et vous continuerez à subir les dommages des voitures diesel circulant sur l'autoroute A1 et le reste des axes automobiles balayant la zone.
Donc figurez-vous bien l'autoroute A1, 4 voies, 5 voies, voire 6 voies à certains endroits,
oui, c'est ça,
pleine
oui,
à craquer,
tout
pas
à fait.
Un centimètre de libre, des beaux pots d'échappement. C'est le quotidien du triangle de Gonesse, avec les avions qui lui passent juste au-dessus de la tête. Et ouais. C'est là où on veut mettre un centre de santé, c'est ça, si j'ai bien compris. Climatisé, avec du bon air, tout ça.
Donc vous aviez l'idée me vient, vous aviez la SPA, la Société Protectrice des Animaux, bah Europa 6 sera la Société Protectrice des Hommes, la SPH, parce que en période critique, ça sera la nouvelle arche de Noé.
Alors c'est pas tout à fait une arche, vu qu'il y a justement une plainte d'une habitante du Triangle de Gonesse il y a quelques jours, contre l'État français, qui se plaint des conséquences de la pollution de l'air sur elle.
Alors, effectivement, elle habitait à Paris, cette habitante, et j'ai lu l'article détaillé qui était paru dans Le Monde. On va de plus en plus, surtout que c'est lié avec le réchauffement climatique, les polluants ont tendance à augmenter. Donc, c'est une solution très très rationnelle au problème de pollution de l'air, c'est se réfugier dans un centre commercial comme ça. Et pendant que autour de vous, l'environnement se dégradera de plus en plus, puisque encore une fois, les alentours en période de pic de pollution, c'est très très grave cette zone-là. C'est la deuxième zone autour des aéroports, le Roissy et le Bourget. C'est la deuxième zone la plus polluée au niveau de l'air d'Île-de-France après le périphérique. Donc déjà, les gens subissent des très gros dommages au niveau de la santé, et ça peut, avec ce type de projet, qu'aller en s'aggravant. Hein.
Alors contre tout cela et pour un triangle de Gonesse un petit peu plus sain, il y a donc une série de mobilisations qui ont commencé dès 2014 avec des événements intéressants comme des grandes marches qui ont essayé de faire du bruit. Et puis dernièrement, le 21 mai, il y a eu une envie de rassembler les gens justement sur place, sur le futur ex-site, on l'espère, d'Europa City.
Alors si je remonte juste en arrière, ça a commencé même dès 2011 parce que c'est la date de constitution du collectif, avec des actions allant crescendo. Et donc le 21 mai, oui, on a fait une journée complète de rassemblement avec d'abord des plantations sur le triangle de Gonesse même. Donc des plantations assez variées, hein, majoritairement beaucoup de courges, mais également des gens qui sont venus avec diverses choses qu'ils avaient déjà plantées chez eux. Et l'après-midi, ça a continué avec une marche, une manifestation du triangle de Gonesse jusqu'au centre ville de Gonesse, devant la mairie. Et au même endroit, face à la mairie, vous avez la maison du projet, la maison de la ZAC et du projet Europa City. Et donc, c'était tout à fait symbolique de finir à l'endroit où un élu local, qui est le maire de Gonesse, défend à fond le projet.
Donc il y a une ambition politique pour les électeurs locaux ce week-end, d'essayer de voir s'il n'y a pas un candidat qui a envie du véritable air frais et pas de l'air frais en conserve, qui pollue. Il y a justement une pétition aussi en ligne pour essayer de peser politiquement sur les élus locaux.
Alors effectivement, juste à peine la manifestation terminée, on embraye immédiatement sur une autre mobilisation qui est celle pour contre le projet via la révision du plan local d'urbanisme de Gonesse qui a lieu en juin de 2017. Donc jusqu'au 30 juin, tout le monde peut donner, pas seulement les habitants de Gonesse, c'est ouvert à n'importe qui, peut donner un avis sur cette révision du plan local d'urbanisme, donc soit sur place, soit en allant sur Internet et laisser, c'est possible, sa contribution, son avis par Internet, et également donc sur notre site Internet, non à europacity.com, on a mis en ligne le lien vers une pétition que vous pouvez signer et qui sera reconnue par le commissaire enquêteur pour influer sur l'avis du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique.
Alors on a écouté juste avant l'interview une chanson qui n'était pas innocente, c'était « Dans mon jardin » de Manu Chao, qui justement a apporté son soutien au projet pour le triangle de Gonesse.
Et qui, donc c'était il y a quelques mois, et qui a appelé également à manifester, à se rassembler le 21 mai à Gonesse, et dans ce cadre-là qu'il a fait cette annonce sur son site internet. Et donc là, ça nous a fait énormément plaisir d'avoir le soutien de Manu Chao.
Alors le prochain rendez-vous physique pour l'association pour le triangle de Gonesse, c'est avec Notre-Dame-des-Landes, vu que vous serez invité d'honneur le 8 juillet prochain pour le camp d'été traditionnel, vu que ça continue, le Notre-Dame-des-Landes aussi, et c'est toujours aussi bloqué, c'est pas si mal, le 8 juillet prochain.
Oui, et c'est un grand honneur d'être invité par Notre-Dame-des-Landes là-bas. Il faut préciser quand même que on a des liens depuis longtemps avec Notre-Dame-des-Landes, notamment par le fait que ils ont les mêmes problèmes que nous et qu'ils savent, plus ou moins grâce à nous, que si il y a un aéroport qui se fait chez eux là-bas, ils auront après la même chose que ce qui se passe autour de Roissy, à savoir pas seulement un aérodrome avec deux bureaux et trois hôtels, mais des zones de bureaux entières, des centres commerciaux, ainsi de suite, qui vont peu à peu urbaniser toutes les terres agricoles entre Nantes et l'aéroport. Donc ils sont totalement concernés. Et le 21 mai, il y avait une délégation d'une 25-30 personnes de Notre-Dame-des-Landes à notre rassemblement.
Alors on va conclure par une chanson qui est en lien avec notre thème suivant, vu qu'on va parler des JO, c'est « Va y avoir du sport » de Silmaris.
Moi, mon nom c'est Smoky, la rumeur gronde, tous les gars sont sortis, on sort de l'ombre, faites chauffer les amplis, pour donner un peu d'air. Il va y avoir du sport, il va y avoir du sport, il va y avoir du sport.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel, on continue avec l'émission Mode d'emploi
et nous recevons Frédéric Vial, militant du collectif Non au JO 2024.
Vous êtes en train de parler d'enculé ? Ça tombe bien, j'ai mis le survêtement.
Alors, Frédéric Vial est en train de rire, vu que c'est lui qui nous a imposé cette phrase. Il est passé sur Radio Notre-Dame, voire même sur des Radio France, mais il n'a pas eu le droit de diffuser cette séquence.
J'ai pas pensé.
Heureusement, ici, il a eu le droit.
J'ai pas pensé.
Alors,
sur Radio Notre-Dame, ça aurait eu de la gueule, quand même. Hein.
Bon. Je me suis renseigné un petit peu sur ces JO 2024, pardon. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est un projet responsable qui vise à être une référence en matière environnementale, avec moins 55% d'empreinte carbone par rapport aux précédents JO, des matériaux biosourcés, de l'énergie verte, de l'alimentation bio. Peu de construction, puisqu'on va réutiliser les sites existants. Et puis, ce qu'on va construire, ça servira aux populations. Notamment, on va construire des logements en Seine-Saint-Denis. Il y a en plus une ambition d'inclusivité et de solidarité, puisque ces jeux seront, je cite, un accélérateur de développement pour les territoires, notamment la Seine-Saint-Denis, avec 250 000 emplois. Donc les 2 000, ou je ne sais plus combien, 10 000 emplois de Gonesse, c'est la dernière note, là c'est 250 000.
Et sans compter que ça va construire une piscine juste à côté de chez moi. Donc je vois pas pourquoi on peut s'opposer à ce projet, franchement.
Donc voilà, je comprends pas très bien pourquoi il y a des gens contre ça.
Vous avez oublié une chose. Grâce aux Jeux Olympiques, il fera toujours beau. Et il ne pleuvra que quand on a envie qu'il pleuve. Sinon, il y aura que du soleil. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on aura? Des palmiers également, non? Non, en fait, effectivement, il y a tout un tas de promesses qui sont mises pour l'instant sur papier glacé et sur la candidature qui vise à nous expliquer l'improbable. C'est-à-dire, par exemple, qu'on aurait des Jeux Olympiques écologiques. Et on voit sur notamment le troisième dossier de candidature que, en toute simplicité, on aura des gens qui vont... Il y a 3 millions de personnes qui sont attendues, hein, qui ne vont produire aucune pollution du fait de leur déplacement. C'est-à-dire que, miraculeusement, elles vont arriver probablement à vélo ou à pied, et elles repartiront probablement à vélo ou à pied, et elles se déplaceront à vélo ou à pied pendant le temps des épreuves, les 15 jours que durent les épreuves, et peut-être même ensuite les 15 jours qu'elles restent en rab si elles ont envie de rester. Et donc, on a ce genre de choses qui sont dites comme ça à l'intérieur de du troisième dossier de candidature, de la même manière qu'on nous explique très très tranquillement qu'il va y avoir des vaisselles en bois qui vont être récupérables pour que les gens, quand ils pique-niquent, ils aient des petits bouts de fourchettes en bois pour manger, et non pas les infâmes trucs en plastique qu'on va voir traîner partout. Évidemment, ce sera sur du bois certifié à mort, qui sera construit dans des forêts, qui sera en provenance de forêts qui, évidemment, seront toutes absolument pas amazoniennes, ni rien du tout. On a comme ça beaucoup de promesses. On nous dit effectivement qu'il n'y aura pas de construction. Ah, bon, mais alors on en oublie quand même quelques-unes. Effectivement, on en oublie quand même une qui est l'Arena 2 à Bercy, qui est prévue, qui elle n'apparaît nulle part. En tous les cas, qui n'apparaît pas dans le cadre du JO, mais qui, si on gratte un petit peu ailleurs, est prévu. Il y a une deuxième aréna qui va être construite, à Bercy, donc sur un parc, et en PPP, en partenariat public-privé. On aime bien les PPP parce que ça a quelque chose d'intéressant pour les finances publiques, c'est que c'est la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Déjà, l'Arena 1, celle qui existe déjà, coûte un bras à la collectivité publique puisqu'elle n'est pas remplie et que dans le cadre du PPP, quand elle n'est pas remplie, c'est déjà...
Il n'y a pas d'eau dedans.
Rempli d'eau, non, rempli de spectateurs, je veux dire. L'eau, c'est la piscine, il faut suivre un peu. Quand elles ne sont pas remplies, ce genre d'infrastructures, c'est derrière les collectivités locales qui crachent. Et donc là, il n'y en aura pas une, mais il y en aura deux. Ça, c'est pas prévu, c'est pas indiqué dans le budget. Mais alors, également, on nous dit ça va rien coûter, ou en tous les cas, ça va coûter très très peu, et la France peut se permettre ça, et que d'un point de vue budgétaire, tout va bien, puisque on aura, sur les 6 milliards 2 de budget, quand même, enfin 6 milliards 2 tout de même, il y a 3 milliards qui sont mis sur la table par le CIO, et 3 milliards par la collectivité publique, 1 milliard pour l'État, 500 millions pour la collectivité locale, et le reste par les sponsors. Et on nous dit, oui, bah quand même, la France est un grand pays, on n'est pas 1,5 milliard près, et on peut très bien, pour un événement de cette ampleur-là, mettre 1,5 milliard sur la table. On n'est quand même pas le Bangladesh. Oui, sans doute, sauf que déjà, le budget est faux, à l'heure où on se parle. C'est déjà faux. C'est déjà faux parce que on a des choses qui sont pas budgétées. La sécurité n'est pas budgétée. À Londres, la sécurité, c'était déjà 1 milliard. Donc ça, là, il y a 1 milliard qui sont simplement pas mis. La piscine dont il est question, elle n'est pas budgétée. L'aréna dont je vous ai parlé n'est pas budgétée. Après, il y a un autre souci, là, à l'instant, et c'est très bien qu'on en ait parlé. On a parlé du triangle de Gonesse. Il y a une ligne 17, figurez-vous, qui est prévue pour rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle. Il faut faire un petit crochet pour aller, pour que les gens aillent sur la piste de ski tout à fait écologique au demeurant, hein, du Triomphe de Gonesse. Et ce petit crochet, c'est un crochet à 500 millions. Alors, évidemment, c'est pas budgété sur les JO, mais les JO servent d'accélérateur du Grand Paris et notamment de ce genre de projet délirant dont Blaise vient de nous faire un portrait. Donc, mis bout à bout, comme ça, entre l'accélération du Grand Paris, ce qui n'est pas budgété, ce qui n'est pas réaliste, avant même le premier coup de pioche, rapide calcul, on n'est déjà pas loin de 5 milliards de dépassements.
Mais un argument qui peut être donné en faveur de ces sommes colossales investies, ce sont les retombées positives. Là, on parle par exemple de 250 000 emplois créés et de logements créés, de dynamisation de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il en est?
Alors, il paraît qu'il y a des gens qui font de l'économie. Bon, ce genre de prospective, c'est d'abord du doigt mouillé, d'une manière générale. Et si vous divisez 5 milliards de dépassements par 250 000... on peut donner les sous à 250 000 personnes tirées au sort, on aura plus vite fait. Hein. Et en plus, on salopera pas l'environnement et on évitera de nous enquiquiner avec un grand projet inutile et imposé de plus. Mais fondamentalement, c'est du doigt mouillé tout ça. Parce que vous avez effectivement de la construction d'infrastructures. Vous avez la construction d'infrastructures qui génèrent un certain nombre d'emplois, qui par définition ne sont pas des emplois pérennes, parce qu'à un moment donné, les infrastructures ne sont pas sont finies d'être construites. Ensuite, vous avez les emplois qui sont créés au moment de l'événement, c'est-à-dire 15 jours ou un peu après pour les gens qui arrivent un peu avant et qui repartent un peu avant. C'est toujours la même chose. Est-ce que ces dépassements budgétaires, on les met sur des choix que nous ferions comme population, par exemple des services publics qui fonctionnent? Par exemple, je sais pas, des services publics de proximité, j'entends souvent dire que on a du mal à trouver des crèches, vous voyez, bon, des choses qui pourraient être éventuellement utiles aux populations, ou est-ce que on décide de tout flamber pour 15 jours et pour créer un certain nombre d'emplois qui vont être là pendant 15 jours? J'ajoute à cela, en parlant d'emplois créés, il y a une part de ces emplois qui d'ores et déjà est prévue pour être des emplois bénévoles. Et alors là, accrochez-vous, parce que c'est quand même assez rock'n'roll, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il est prévu, le CIO a dit qu'il voulait qu'il y ait 35 000 emplois bénévoles. Bénévoles, ça veut dire en français pas payés. Bon. Mais il y a un problème avec ça. C'est-à-dire qu'en droit français, quand il y a des emplois qui sont trop souvent occupés par des personnes qui normalement devraient être payées et qui finalement ne sont pas payées, ça s'appelle du travail non payé, ce qui finalement est contraire aux lois et aux conventions internationales contre l'esclavage. Eh bien, pour éviter qu'il y ait des malotrus qui saisissent les prud'hommes en disant finalement je veux être payé, il est prévu une loi olympique, troisième dossier de candidature, qui va suspendre le droit social, le droit environnemental, peut-être aussi certaines règles concernant la propriété intellectuelle, on y reviendra. Bref, une loi spéciale pour que le CIO fasse ce qu'il veut pendant cette période-là. C'est quand même assez amusant aussi.
Alors on peut revenir sur l'impact aussi médiatique, parce que finalement, les JO, il ne faut pas oublier, c'est quand même du sport, non pas trop. C'est surtout un grand support publicitaire quand même.
Oui, absolument. C'est un grand support publicitaire pour finalement quelque chose qui est du sport-spectacle, essentiellement tourné vers des pseudo-valeurs. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est le sport qui fait de l'amitié entre les peuples, etc., etc. personne ne peut ignorer d'une manière sérieuse que c'est essentiellement un sport dopé, de dopage, et que les plus grands gagnants, ce sont les pharmaciens, enfin ceux qui arrivent à faire avancer leurs athlètes en leur mettant des choses qui ne se repèrent pas aux tests antidopage. Mais c'est aussi du sport qui rapporte énormément d'argent. Et de ce point de vue-là, la propagande joue à fond. On va avoir un magnifique exemple de propagande le 23 et le 24 juin prochain à Paris, où une barge énorme va être installée près du pont Alexandre III, avec nos sous, hein, je rappelle, tout comme la publicité qu'il y a autour de ça, et où les enfants des écoles sont mobilisés pour aller sauter en l'air, nager dans les piscines, etc., etc., et pour porter les, entre guillemets, valeurs de l'olympisme. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde absolument merveilleux, ce monde où on utilise finalement les gosses pour porter des valeurs éminemment critiquables, qui sont en réalité des pseudo-valeurs.
Alors, comme tu le soulignes, on voit une énorme communication gouvernementale, on peut dire une propagande autour de ces JO, avec tous les moyens publics mis dans cette communication. Face à ça, vous, qu'est-ce que vous comptez faire comme...
Avec nos petits bras musclés.
Avec, voilà.
Eh bien, avec nos petits bras musclés, on a démarré une mobilisation il n'y a pas tellement longtemps. On est beaucoup plus récent que la mobilisation du triangle de Gonesse. Et alors, on s'est dit, il faut essayer de faire monter l'idée que c'est n'importe quoi, ces histoires-là, dans la population, en informant, si possible, la population. Alors, on a chopé une idée comme ça, on s'est dit, on va faire une demande de référendum. Parce qu'après tout, toutes les villes, les unes derrière les autres, ont fait des référendums, pas toutes, hein, deux, trois, ont tous les cas réclamé des référendums. Il y en a deux qui en ont fait et une qui a... la ville a reculé au dernier moment parce qu'elle était sûre de perdre. Et les populations ont été peu ou prou consultées dans les autres villes. Et on s'est dit, on va prendre ce même chemin. Et on a entamé une pétition aussi, une de plus. Non pas tellement parce qu'on espère que la ville de Paris va être convaincue et va retirer sa candidature, absolument pas. Mais pour qu'il y ait une montée de la prise de conscience du problème que ça pose. Il faut bien être lucide sur ça. On a atteint 20 000 signatures. On a dépassé les 20 000 signatures en quelques mois. Ce qui n'est pas mal, mais ce qui n'est pas susceptible de changer le rapport de force. Il n'est pas complètement absurde de penser que on aura très certainement le 13 septembre la ville de Paris désignée. Ce qui veut dire qu'à partir du 13 septembre, nous aurons 7 ans pour faire reculer ce projet complètement délirant. Et je crois que ce sera pas 7 ans de trop, puisque là aussi, on sera certainement parti dans une mobilisation beaucoup plus dure que celle qui a eu lieu jusqu'ici. En fait, je crois que, personnellement, mais ça c'est juste mon avis, le moyen d'obtenir gain de cause, c'est de faire comprendre aux élus, et notamment la première d'entre elles, à la maire de Paris, lui faire comprendre que cette affaire-là lui coûtera sa carrière. Je crois que c'est le seul moyen de la faire reculer.
Merci, le combat ne fait que commencer. Donc.
C'est le cas de le dire, oui.
Alors, on a le temps de faire l'agenda, néanmoins, on se presse. Donc, le premier à parler, c'est Gaël.
Eh oui, du 2 au 11 juin, il y a la troisième édition du Festival Ciné-Palestine à Paris, Saint-Denis et Aubervilliers, pour faire connaître le cinéma palestinien.
Alors, le samedi 10 juin, à 18h, place Pinel, côté du métro national. Donc c'est La Nuit Debout, Paris 13e, qui ressort de l'ombre des cafés du quartier et qui continue tous les samedis à 18h, place Pinel. Après la fête, AG, le 20 mai, Action, notamment le 15, pétition pour la modification du projet immobilier du 90, boulevard Vincent Auriol, etc.
Également demain samedi à 18h30, porte de la Chapelle. Manifestation, 18e quartier populaire, quartier sans frontières, contre la guerre aux pauvres, la chasse aux migrants, l'occupation policière. Manifestation au départ de la porte de la Chapelle à 18h30.
Cet été, il y aura un petit G20 qui va se réunir à Hambourg, en Allemagne. Ça sera le 7 et 8 juillet. Il y aura un camp sur place 5, 6, 7 juillet. Il y aura des concerts. Il y aura de quoi aller faire du bruit et de la fureur. Mais si vous voulez préparer cela, c'est mardi 13 juin à 19h au 23 rue Château-Landon. Préparation de soirée de préparation par nos G20 avec un petit peu d'échange et savoir comment y aller et comment préparer la venue.
Le 14 juin 2017 à 19h30, le collectif ROR Paris, qui est une batucada activiste, vous appelle à la rejoindre à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, 82 avenue d'Enfer Rochereau, pour militaire en musique. L'atelier est ouvert à tous et à toutes, aussi et à celles et à ceux qui n'ont jamais fait de la musique. L'adresse internet, c'est rhythmsofresistance.org avec des traits d'union. Entre les mots.
Mercredi 14 juin, il y a un débat sur Le Grand Soir. C'est un voyage dans l'imaginaire révolutionnaire du 19e siècle en présence de l'auteur de ce livre, Le Grand Soir, Aurélie Carlier. Ça sera à la boutique librairie Quillombeau, 23 rue Voltaire.
Mercredi 14 juin à 20h, une rencontre avec Barbara Mettet-Chassagnier pour son livre Chronique des Invisibles. C'est à l'atelier 2 bis rue du Jourdain.
Et jeudi 15 juin à 19h à la librairie Résistance 4 Villa Compoint, un débat sur la droitisation du monde de François Cusset, analyse du grand virage mondial à droite.
Également jeudi 15 juin à Saint-Ouen-l'Aumône au cinéma Utopia, projection suivie d'un débat du film Les Pieds sur Terre. C'est une séance en soutien aux luttes contre le projet dont nous avons déjà parlé, Europa City, et contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Le samedi 17 juin, un colloque des économistes atterrés sur les réformes du marché du travail, organisé donc à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à 14h30, 12 place du Panthéon.
Et on termine par l'agenda de l'été. Il y a plein de dates si vous voulez préparer votre été militant.
Attends, on a un truc.
Oui, mais c'est pas grave. Si, on peut pas tout dire. Alors, c'était à l'Assemblée nationale, oui, à 18h le lundi 19 juin, il y a un rassemblement contre Macron et ses ordonnances. C'est organisé par le Front Social, c'est la CGT, mais c'est important de faire tout ce qui est possible pour aller râler contre ce gouvernement. Hein. Le samedi 24 juin, donc vous aurez la possibilité d'aller, j'ai oublié, aux rencontres intergalactiques de l'Antipub. Ce sont les réunions annuelles, c'est un petit peu l'université d'été de l'Antipub. Le 25, 23, 27 juin, il y a des pique-niques solidaires RESF, métro Porte Dorée. Toutes ces infos que je dis à toute vitesse, vous pouvez les retrouver sur Démosphère. J'ai déjà parlé le 7 juillet des manifestations anti-G20 à Hambourg. Le 8 juillet, on en a déjà parlé, c'est le rassemblement estival annuel de Notre-Dame-des-Landes. Le 12 juillet, ça sera le festif 2017 de la décroissance. Ça sera Saligny-sur-Oudon. Je ne sais pas où c'est, mais c'est dans le Bourbonnais. C'est dans l'Allier, mais c'est dans l'Auvergne, dites donc. Il y aura aussi, là, en Bretagne, l'altervillage annuel d'Attaque. Donc, c'est un rendez-vous sur une semaine qui aura lieu à Aradon, à la Cidrerie du Golfe. Tout un programme dans le Morbihan. 7 jours de créativité et de formation militante. Ça fait 10 ans que ce village est organisé. Il y a, comme chaque année, et là, c'est encore en Auvergne, à Saint-Amand-Roche-Savine, le festival de la compagnie Jolie. Le festival Label Rouge du 28 au 30 juillet avec plein de concerts divers et d'interventions théâtrales. Le Camp Climat 2017 sera du 4 au 15 août à Saint-Aubin. Venez poser votre tente à Maury dans les Pyrénées-Orientales pour 11 jours incroyables de formation, de détente, d'ingéniosité et de convivialité autour de la logique anti de tous les producteurs de pollution. Et il y a, bien entendu, l'université d'été d'Attaque, qui s'appelle en fait l'université d'été européenne des mouvements sociaux du 23 au 27 août, qui aura lieu, encore une fois, à Toulouse. Venez nombreux. Alors, on termine par une note un petit peu plus triste, mais avant d'en parler, bon, on va déjà remercier tout le monde. On remercie, évidemment, nos deux invités, qui sont donc Fred Vial, qui est venu nous parler des JO, et Blaise, qui est venu nous parler de l'association pour le Triangle de Gomez, de Gonesse. Il y avait en chroniqueur Alex, Gaël et Patrick, aux fables et aux sondages. À la technique, on avait Ludo et Gilles, qui est venu passer faire un petit coucou. On termine, comme je disais, sur une note un peu plus triste, c'est qu'on a un camarade bien connu des Parisiens d'Attaque qui est décédé avant-hier. Il s'appelait Aymar de Camaré. Il nous a quitté de manière surprenante, vu que quelques jours avant, il était encore un des piliers actifs de toute association Attaque de France, de Paris, même de France, de par toutes ses activités. Il y aura une soirée hommage organisée le 18 juin de 17h à 20h au CICP pour lui rendre hommage, évidemment, et pour penser à lui. Ben, on écoute, pourquoi pas, ben, Mon Camarade, la chanson de Léo Ferré, mais chantée ici par Dominique A.
fait de moi. Qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et depuis, tous deux, on se balade.